Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
La tension monte d'un cran au Proche-Orient.
L'escalade ne concerne pas seulement Israël, mais concerne toute la région.
Israël promet des représailles contre l'Iran. Le cabinet de guerre va se réunir à nouveau dans une heure. Début d'un procès historique, Donald Trump face à la justice dans l'affaire Stormy Daniels. Et au Conseil du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon promet un référendum d'ici 2030.
Notre destin nous appelle.
Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio-Journal. Israël promet donc des représailles contre Téhéran en réponse à l'attaque iranienne survenue sur son territoire en fin de semaine. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Le cabinet de guerre du gouvernement Netanyahou s'est d'ailleurs réuni hier soir et il y a une autre rencontre prévue ce matin.
Oui, effectivement, pour discuter, Mathieu, de l'éventuelle riposte à l'attaque de l'Iran, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune décision qui a été prise dans ce dossier. Ce qui fait consensus au sein du cabinet de guerre, c'est qu'Israël doit agir, doit riposter, mais ce qui divise les membres du cabinet, c'est la façon dont se fera, Mathieu, la riposte, le moment que choisira Israël pour répliquer. D'ailleurs, il y a le gouvernement américain, les États-Unis qui ont déjà fait savoir qu'ils ne soutiendraient pas Israël dans une éventuelle riposte, là.
Et les dirigeants des pays du G7 qui appellent à une désescalade des tensions.
Oui, dans le cadre d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, réunion, Mathieu, qui a eu lieu hier, il y a les pays du G7 dont le Canada, dont le gouvernement Trudeau, qui ont condamné unanimement les frappes iraniennes et qui ont appelé, comme un peu partout dans le monde, les partis à la retenue. Et ce matin, un peu plus tôt aujourd'hui, en fait, il y a le président français Emmanuel Macron qui a affirmé que la France allait tout faire pour éviter l'embrasement au Proche-Orient. On l'écoute.
Nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui, nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires.
Et il y a également l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont lancé aussi un appel donc à la retenue pour éviter toute escalade du conflit au Proche-Orient. Et il y a aussi le Kremlin qui vient tout juste d'ajouter sa voix, donc de faire la même chose.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Et d'ailleurs, au pays, le gouvernement fédéral a réaffirmé son appui au droit d'Israël de se défendre. Et Valérie Gamache a recueilli des réactions à Ottawa.
Nous condamnons les attaques aériennes.
Justin Trudeau a rappelé que le Canada est solidaire d'Israël et a réaffirmé le droit de Tel Aviv à se défendre contre ces attaques. Parallèlement, Ottawa appuie la position américaine, c'est-à-dire que l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae, plaide pour la désescalade des tensions dans la région. À l'instar des alliés du G7, il en appelle à resserrer la coopération pour mettre fin à la crise à Gaza. Une crise humanitaire qui ne peut pas être oubliée dans le contexte de ces attaques, dit-il.
Je crois que c'est nécessaire de considérer l'impact continuel sur la situation en Gaza.
Et il y a de la pression pour que le gouvernement Trudeau reprenne ses exportations d'armes vers Israël pour permettre au pays de se défendre. En janvier dernier, le gouvernement a décidé de ne plus approuver de nouvelles licences d'exportation d'armes, bien qu'il honore les licences déjà existantes. Puis l'ambassadeur israélien à Ottawa réitère sa demande pour que le gouvernement inscrive sur sa liste des organisations terroristes, les gardiens de la révolution islamique et ce, sans plus tarder, Ido Moed, l'ambassadeur israélien à Ottawa.
Iran's need to be faced strongly right now.
La communauté internationale doit se tenir debout face à l'Iran, dit-il, et ça commence par désigner les gardiens de la révolution islamique, organisation terroriste, dès aujourd'hui. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.
Maintenant, aux États-Unis, malgré toutes les tentatives de ses avocats pour le faire avorter ou pour le retarder, le premier des 4 procès criminels engagés contre l'ex-président républicain Donald Trump s'ouvre aujourd'hui à New York en pleine campagne présidentielle. Le milliardaire est accusé d'avoir falsifié des documents financiers, notamment pour dissimuler des pots de vin versés à une présumée maîtresse, l'actrice Stormy Daniels, pour ne pas nuire à sa candidature en 2016. Dans une ville nettement démocrate, la sélection du jury s'annonce compliquée. complexe. Voici notre correspondant aux États-Unis, Frédéric Arnould.
Pour le début de ce procès, tant la défense que la poursuite tenteront de trouver des jurés qui leur sembleront impartiaux ou à tout le moins qui ne pourront pas nuire à leur cause lors des délibérations. Ainsi, lors de cette sélection, les avocats pourront exercer leur droit de refus s'ils estiment que tel ou tel candidat juré ne convient pas. Les jurés potentiels se feront poser pas moins de 42 questions lors de cette sélection. De quoi passer au peigne fin ce bassin de plusieurs centaines de candidats afin d'en retenir 12 plus 6 suppléants. Les jurés potentiels devront indiquer les médias en ligne, les émissions d'information et les médias sociaux qu'ils consultent et s'ils se sont déjà considérés comme des partisans ou des membres de groupes extrémistes et suprémacistes blancs dont le mouvement QAnon, les Proud Boys et Antifa. Cela ne sera forcément pas une mince affaire d'en trouver 18 car à New York, ville majoritairement démocrate, il est difficile de ne pas avoir d'avis sur l'ex-président qui se retrouvera dans le box des accusés. Le processus devrait prendre plusieurs jours et le procès de Donald Trump dans cette affaire de pot de vin versé à Stormy Daniels, ancienne actrice du porno, devrait durer entre 4 et 8 semaines. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à New York.
Au pays, le gouvernement libéral de Justin Trudeau annonce depuis des semaines des milliards de dollars en dépenses supplémentaires. Il devrait annoncer dans son budget demain que les Canadiens les plus riches seront d'ailleurs mis à contribution. Radio-Canada a appris que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a l'intention de taxer davantage les contribuables les plus fortunés et les grandes entreprises pour aller chercher de nouveaux revenus. L'an dernier, Ottawa avait déjà serré la vis aux Canadiens qui gagnent plus de 300 000 $ par année, en limitant notamment la possibilité de recourir à des avantages fiscaux. Le chef du Parti québécois a ramené la question de l'indépendance à l'avant-scène hier, au terme d'un conseil national où il a surtout été question de logement et d'immigration. Paul Saint-Pierre Plamondon s'est dit persuadé qu'un ultime référendum sur la souveraineté aurait lieu d'ici la fin de la décennie. Voici les explications de Sébastien Desrosiers.
Le pays est à portée de main, à en croire Paul Saint-Pierre Plamondon.
D'ici quelques années, assurément d'ici la fin de la décennie, nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec.
Selon lui, le gouvernement fédéral menace le Québec puisqu'il empiète notamment sur ses champs de compétences et refuse de lui céder des pouvoirs en immigration.
C'est de plus en plus évident que nous assistons à une charge contre le Québec, à une action concertée pour nous affaiblir, pour nous effacer même, à tous les points de vue.
Avec le PQ en tête des sondages, une fenêtre historique serait en train de s'ouvrir. Il tend la main aux Québécois de tous les horizons politiques.
Notre prochain rendez-vous avec l'histoire, car il aura lieu, est peut-être, en fait fort probablement, notre chance ultime de se donner une pérennité linguistique et culturelle.
On va pouvoir faire plein de choses qui sont super importantes pour les Québécois.
Les militants ont aussi adopté des propositions pour s'attaquer à la crise du logement, comme réinvestir massivement en logement social, pour mieux protéger les locataires et faciliter l'achat d'une première maison. Avec ce Conseil national, le chef du Parti québécois voulait sans doute donc montrer qu'il peut marcher et mâcher de la gomme en même temps, c'est-à-dire s'attaquer aux priorités des Québécois comme le logement et préparer le terrain pour un troisième et qui sait ultime référendum sur l'indépendance. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Drummondville.
C'est ce matin que s'ouvrent les audiences publiques du bureau du coroner sur la mort de deux pompiers volontaires lors des inondations de mai dernier dans Charlevoix. L'enquête devrait permettre d'en savoir plus sur ce qui a poussé Régis et Christopher Lavoie à monter à bord d'une embarcation mal adaptée au très fort courant qui les a emportés. Le PDG de Sauvetage Nautique Québec, Sylvain Gariepy, plaide pour une meilleure formation des pompiers dans les petites municipalités.
Ces gens-là, là, c'est des pompiers de temps partiel. C'est pas leur métier. Ils sont formés pour principalement éteindre des feux, mais ils ne sont pas formés pour comment gérer l'urgence. De s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des citoyens, parce qu'on est dans un changement climatique. Hein. C'est pas si ça va arriver, c'est plutôt quand ça va arriver.
Le mois dernier, la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, avait conclu que les deux pompiers n'avaient ni les compétences ni l'équipement nécessaire pour réaliser des sauvetages nautiques. Le quart des décès de jeunes adultes au Canada sont causés par des surdoses d'opioïdes. C'est ce que montre une nouvelle étude publiée ce matin dans le journal de l'Association médicale canadienne. Le rythme des surdoses mortelles a doublé au pays depuis la pandémie et elle touche principalement les jeunes de 20 à 39 ans. En Alberta, c'est un décès prématuré sur deux dans cette tranche d'âge qui est causé par les opioïdes. Selon les auteurs de l'étude, c'est la plus grande toxicité des drogues et l'omniprésence du fentanyl qui ont causé cette augmentation. En terminant maintenant au hockey.
Et qui finalement décoche un tir, c'est le but!
Eh bien voilà, les Canadiennes sont championnes du monde à nouveau. La Québécoise Marie-Philippe Poulin a marqué 2 buts dans une victoire de 6-5 en prolongation contre les Américaines. Il s'agit donc d'une 13e médaille d'or pour le Canada en 23 participations à ce tournoi. Voilà, c'était le Radio Journal. Ici Mathieu Bellumeur, au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.
Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.